Donc, vous connaissez le fonctionnement des cafés, hein. Nous allons d'abord proposer à tous les intervenants de se présenter sur leurs activités, le type de questions auxquelles ils pourraient répondre, et puis nous vous donnerons la parole. Vers 21h15, nous faisons une petite récréation où nous vous proposons de vous rafraîchir dans la salle à côté, puisque, comme vous savez, cette salle nous est proposée gratuitement. Voilà, et puis après le débat recommence, hein. Donc je propose aux intervenants de se présenter, peut-être madame d'abord.
Bonjour, bonsoir plutôt. Donc je m'appelle Sylviane Valdois, je suis chercheure au CNRS, je travaille à Grenoble en fait à l'université Pierre Mendès France. Et ma spécialité, en fait, je m'intéresse aux troubles des apprentissages et plus spécifiquement aux dyslexies développementales. Donc tous les enfants qui ont des troubles vraiment sévères d'apprentissage de la lecture et aussi de l'orthographe, puisqu'en général, c'est très lié. Et je m'intéresse évidemment aussi aux mécanismes cérébraux qui sont impliqués à la fois dans l'apprentissage normal et dans les troubles des apprentissages.
Donc Jean-Luc Roulin, bonsoir. Je suis maître de conférence à l'Université de Savoie. Je suis dans le même laboratoire de recherche que Sylviane Valdois, puisque c'est un laboratoire qui est commun à Grenoble et Chambéry, qui est le laboratoire psychologie et neurocognition. Moi, je m'intéresse plus particulièrement, tout au moins historique, tout au moins au développement de l'enfant et sur ses aspects cognitifs, hein, fonctionnement intellectuel, intelligence, etc. Et à l'intérieur de ce champ qui est très large, plus récemment, je suis plus concerné par ce qu'on appelle la mémoire et aussi les fonctions exécutives, c'est-à-dire la façon dont on va contrôler son action, planifier ses actions, comment ça se développe et quels sont les corrélats aussi avec les structures cérébrales et plus particulièrement ce qu'on appelle le lobe frontal. Mais on en parlera, on n'en parlera pas, c'est pas indispensable. Voilà.
Bonsoir. Donc moi, c'est Marilyn Gou, je suis orthophoniste. Déjà, je m'excuse parce que je suis bien enrhumée, je parle du nez, c'est peut-être pas très agréable, mais on va faire avec. Donc je travaille en libéral, j'ai un cabinet libéral à Châles-les-Eaux. Et puis, j'ai un mi-temps aussi à l'hôpital de Chambéry. Donc, particulièrement en neurologie, on a un service d'une unité neurovasculaire. Donc, on accueille des patients qui ont fait un AVC. Donc, voilà, pour des patients qui sont aphasiques, qui ont des problèmes de langage, mais aussi de déglutition, hein, des dysphagiques, des dysarthriques, on en parlera peut-être. Et puis, donc côté libéral, pathologies variées, troubles des apprentissages, langage oral, langage écrit, des tout-petits, je pense 3-4 ans, jusqu'aux ados à peu près, hein, pour des problèmes aussi de dyslexie, dysorthographie, quelques adultes pour des problèmes de voix, et puis personnes âgées pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer ou autres pathologies apparentées. Voilà.
Bonsoir, moi je suis le docteur Vercueil, je suis un médecin neurologue au CHU de Grenoble. Je suis neurologue et neurophysiologiste, c'est-à-dire que je m'occupe notamment des enregistrements de l'activité électrique cérébrale. Donc un peu comme ma voisine, on est du côté de la pathologie, de la clinique. Je peux donc un petit peu aborder le sujet de la clinique et puis une autre casquette dans un laboratoire INSERM. Je peux aussi répondre un petit peu à des questions plus fondamentales de neurophysiologie. Voilà.
Bien, nous allons commencer. Donc, qui se lance à la première question? Pour la première question.
Bonsoir. Oui. Bon, tout de suite, là, comme ça, je m'interroge sur le genre d'expérience qu'on peut faire dans la recherche à propos, on ne connaît pas tout encore, on peut encore découvrir des choses.
Oh, moi, j'ai l'impression, oui, qu'on pourrait s'étendre beaucoup là-dessus. Qui veut répondre? Donc, sur l'apprentissage, et voilà.
Oui. Ben, je crois qu'on a beaucoup avancé, on connaît de plus en plus de choses, mais vous savez, c'est toujours comme ça en recherche. Plus on découvre de choses, plus on se rend compte de ce qu'on ne connaît pas et de tout ce à côté de quoi on est passé et puis qui reste à découvrir. Donc je pense que oui, évidemment, il y a encore énormément de recherches à faire. Alors après, au niveau quel type d'expérience on fait ou des choses comme ça, ben, ça dépend évidemment du problème auquel on s'attelle, hein, qu'on essaye de comprendre. Dans mon cas particulier, ben, c'est la lecture. Donc en général, on place des enfants, en l'occurrence, puisque je m'intéresse surtout à l'apprentissage chez l'enfant, mais ça pourrait être des adultes, face à un ordinateur où on va pouvoir contrôler le temps de présentation d'un mot. On va pouvoir contrôler sa taille, enfin énormément de variables, et on va mesurer en fait la performance de la personne, que ce soit si elle a reconnu le mot, donc le score, hein, si elle a fait juste ou pas. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est le temps de réponse, donc combien de temps elle a mis pour reconnaître qu'il s'agissait par exemple d'un mot, parce que ce sont deux éléments à la fois. Le fait de lire le mot comme il doit être lu et le fait de le lire rapidement, ce sont des éléments qui nous informent, par exemple, sur l'efficacité donc, du système de lecture. Donc ça peut être ça, mais on peut imaginer des tas d'autres situations, hein, évidemment. Je vais peut-être laisser les autres.
Ouais, je ne veux pas dire grand-chose d'autre. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche, il y a sûrement plus à faire que ce qui a déjà été fait. Mais si on vous reposez la question dans 150 ans, on vous répondra la même chose. Je pense qu'il y aura toujours plus à faire que ce qui a été fait. Par contre, ce qui change, c'est la façon dont on va poser les problèmes, dont on va les penser, dont on va les réfléchir, la façon dont on va les formaliser. Et comme les faits ne changent pas, en fait, mais comme on les pose autrement, et c'est l'intérêt de la démarche scientifique, ça nous permet de se dire il y a peut-être autre chose à voir qu'on n'avait pas vu. C'est-à-dire que si on s'arrêtait simplement au comportement quotidien pour comprendre comment on fonctionne, on n'y arriverait pas. Et le fait d'avoir des modélisations, le fait de penser les choses différemment nous conduit à dire bah, si on mettait la personne dans telle situation, comment elle ferait? Et ça nous permet de mieux comprendre comment elle fonctionne. Et à chaque fois, on change nos modèles et du coup, on invente de nouvelles situations, on invente ce qu'on appelle, nous, des nouveaux paradigmes expérimentaux qui nous permettent d'aller voir plus loin. Puis il y a le développement des outils technologiques qui sont à notre disposition, aussi bien informatiques, mais je pense à la neuroimagerie, donc on pourra en parler, ou à la physiologie. Ou neurophysiologie, qui nous permet d'avoir des indicateurs beaucoup plus fins du fonctionnement cognitif quand on a une tâche de mémoire, quand on a une tâche de lecture ou autre. Donc c'est ça qui avance. Donc c'est pour ça que je dis dans 150 ans, dans 200 ans, on aura toujours autant à faire, et heureusement pour nous.
Je peux aussi enchaîner. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore plein de choses à découvrir, et même des choses assez essentielles. Je pense à quelque chose qui est un petit peu de l'actualité, hein, qui est qu'on sait depuis très longtemps, en pratique quasiment depuis Konrad Lorenz, qu'il y a dans le développement du sujet jeune, qu'il soit animal ou humain, des périodes critiques. Et on pensait jusqu'à assez récemment que ces périodes critiques, c'était des moments où il fallait faire les apprentissages, en gros une fenêtre d'apprentissage qui s'ouvre, et que si on rate cette fenêtre-là, elle se ferme, c'est trop tard. Donc typiquement, la lecture, l'écriture, il y a des âges, le langage, il y a des âges où il y a comme une empreinte qui peut se faire dans le cerveau et qui va fonctionner. Et si on rate ça, c'est toute la thématique des enfants sauvages, si on rate ça, c'est perdu. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un chercheur américain qui s'appelle Hench et un chercheur français qui s'appelle Alain Prochiance qui ont montré comment on pouvait ouvrir et fermer ces fenêtres. Quels étaient les mécanismes cérébraux qui faisaient que la fenêtre s'ouvrait et se fermait, avec derrière la possibilité, pourquoi pas, un jour, c'est pas actuellement, mais de réouvrir des fenêtres. C'est-à-dire de redonner une possibilité, on appelle ça la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la possibilité du cerveau de créer une fonction en s'organisant de manière quasiment autonome. Comment recréer la possibilité de réouvrir ces fenêtres? Alors, on pourra aller dans le détail si ça vous intéresse, mais c'est pour vous dire que vraiment, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer, notamment dans la matière de développement, des apprentissages, et ça va continuer, quoi, ça va continuer.
Une question, madame, oui.
Comment est-ce qu'on apprend, en fait? J'ai une amie, par exemple, qui a 70 ans, qui est en train de se mettre au russe. Comment est-ce qu'on peut se mettre au russe à 70 ans et commencer à apprendre du russe et le mémoriser? Enfin, je ne sais pas, comment ça se passe dans la tête?
Il y a plein de questions. Non, alors, il y a une réponse toute simple, hein, qui est que la plasticité cérébrale est quelque chose qui est permanent, qui est continu. Hein, votre cerveau ne sera pas le même en sortant de cette pièce que celui que vous aviez quand vous êtes venu vous asseoir. Vous aurez appris des choses, peut-être que vous avez déjà tout ce qu'on va dire, mais probablement, on va quand même réussir un petit peu à changer la conformation de votre cerveau, parce qu'il est plastique, et même nous, en vous parlant, on évolue, et si on faisait des imageries fonctionnelles à tout le monde en entrant et qu'on les faisait à la sortie, on verrait qu'il y a des changements, qu'il y a des nouvelles synapses qui sont faites, il y a peut-être des circuits qui n'existaient pas, qui vont s'activer. Donc, quel que soit l'âge, cette potentialité de créer du nouveau circuit, de créer de la nouveauté dans le cerveau, c'est la propriété fondamentale du système nerveux. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Un peu à rebours de ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein.
Moi, juste pour compléter un tout petit peu, ce qui peut être différent quand j'apprends une nouvelle langue à 70 ans ou à 10 ans, ce qui va être différent, c'est parfois les mécanismes. Puis ça va dépendre aussi de l'histoire, si on connaissait d'autres langues ou pas, mais c'est les mécanismes qui vont être en œuvre, la façon dont ça va se faire, les temps d'apprentissage qui peuvent être différents, mais on peut apprendre tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en théorie. Mais après, il y a les limites qui vont être la fatigabilité, il va y avoir d'autres limites qui vont être de ce type-là, et puis les réorganisations qui vont se faire parfois un peu différemment. Donc les processus d'apprentissage qu'on peut observer sur une nouvelle langue, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là, mais je pense que c'est le cas aussi, peuvent être différents. Alors ça va se traduire par une plasticité synaptique, par des modifications synaptiques ou autres, mais les processus peuvent être différents que ceux qu'on observe quand on apprend une nouvelle langue à 3 ans ou à 10 ans ou à 20 ans. Mais par contre, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apprendre. Quoi. Sauf des raisons autres.
Oui, il y a plusieurs questions. Allez-y. Oui, une question sur la mémoire également. Pardon. On l'entend.
Oui, dans votre petit texte, vous dites que le cerveau est fait pour apprendre, mais n'est-il pas fait aussi pour oublier? Parce que... ça me semble être une nécessité dans la vie. Enfin, je connais une personne qui n'oublie rien et dont la vie est quasiment infernale. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des processus d'oubli très inégaux d'une personne à l'autre?
Oui, mais je crois qu'effectivement, l'apprentissage, ça veut dire aussi oublier ou perdre d'autres capacités. Enfin, si on prend par exemple le bébé, le tout jeune enfant qui vient de naître, dans la première année de vie, il va être capable de distinguer tous les sons de toutes les langues du monde, ce qu'on n'est plus capable de faire nous en tant qu'adultes, puisqu'il y a des langues en fait qui utilisent des différences de sons, de phonèmes, hein, on dit habituellement, qui sont très différentes de ce qu'on a en français. Donc, en fait, si nous, en tant qu'adultes, on essaye d'apprendre cette langue-là, en fait, on n'est pas capable de discriminer la différence de son qui est pour cette langue-là fondamentale, et du coup, on va avoir du mal à apprendre. D'accord ? Donc, l'enfant, au début de la vie, est capable de traiter et de discriminer tous les sons de toutes les langues. Mais en fait, la première année de vie va être une année où il va se spécialiser. Enfin, son cerveau, en fait, va se spécialiser pour sa langue maternelle. Et ça veut dire que, d'un côté, il va apprendre ce qui est spécifique à sa langue, donc vraiment à discriminer de façon très claire les sons de sa langue. Et ça, il va pouvoir le faire de façon très automatique, systématique, etc. Mais il va perdre la capacité de discriminer les sons des autres langues. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a un lien entre... parce que l'apprentissage, c'est une spécialisation, en quelque sorte. Et ça va s'accompagner, dans bien des cas, effectivement, de quelque chose un peu en moins, finalement. Mais les mécanismes sont complexes, c'est pas automatique, hein, du tout. Donc,
je sais pas si... Je voulais juste, oui, peut-être prendre un exemple par rapport à la compréhension. Alors, comprendre ou apprendre, mais se dire aussi que c'est peut-être inhiber certaines choses. C'est-à-dire se dire et arriver à voir ce qui est des éléments vraiment très importants dans un texte, dans une leçon à apprendre, n'importe quoi, et ce qui est du détail. Je pense que c'est une capacité intellectuelle importante, se dire qu'est-ce qui est de l'ordre du détail, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'essentiel, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qui est plus facultatif, etc. Et oui, je pense qu'on ne peut pas tout apprendre et qu'il y a un tri à faire, un tri sélectif, et que c'est... Enfin, je pense, voilà, en parlant de fonctions exécutives, je pense qu'on pourra plus détailler, mais... c'est vraiment ça. Et moi, en tant qu'orthophoniste, c'est aussi apprendre aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées, après, de vraiment à faire le tri dans toutes ces informations. Et il y a beaucoup, je pense, à des adolescents qui n'arrivent pas à faire ce tri-là, qui n'arrivent pas à organiser leurs pensées, à planifier et à se dire ben ça c'est plus ou moins important et ça c'est plus de l'ordre du détail. Donc voilà.
Je réponds alors.
Répéter pour l'enregistrement, oui.
Je disais que oui, je posais la question de l'oubli des souvenirs qu'on a et qui sont a priori bien ancrés dans le cerveau. Quels sont les processus et comment peut-on les ralentir ?
Répondre directement à la question sur les processus d'oubli, ça va être très compliqué parce qu'il y a plein de mécanismes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, un, la mémoire, elle n'est pas passive, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas de l'information comme ça. On reconstruit l'information, elle se transforme, avec le temps, elle se transforme, c'est que le souvenir se transforme avec le temps, il va se transformer en fonction de la façon dont vous l'avez rappelé. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose, je vous pose des questions sur ce que vous avez vu, et je vous réinterroge une semaine après ou deux semaines après, le souvenir que vous allez restituer va dépendre des questions que je vous ai posées. La façon dont vous allez restituer. Donc le souvenir, il n'est pas passif, on ne récupère pas de l'information. Deuxième chose, on oublie, c'est évident. Alors après, savoir ce que c'est que l'oubli, c'est un autre problème. Mais on a des pathologies qu'on connaît bien en neuropsychologie qui sont très rares, c'est les hypermnésies, et c'est une catastrophe. Tout le monde, c'est très difficile parce qu'on n'oublie rien. On n'oublie rien et du coup, traiter de l'information, c'est la sélectionner, c'est faire tout ça. Et en fait, ça gêne. En fait, c'est une mémoire parfaite, c'est un handicap, c'est pas une bonne chose. Une bonne mémoire, c'est une mémoire qui va reconstruire, qui s'adapte au contexte, qui trie l'information, qui la transforme pour s'adapter, etc. Donc c'est vraiment ça. Alors les mécanismes qui se mettent en place au cours du développement et qui permettent la mémoire. En plus, quand on parle de la mémoire, c'est déjà un raccourci de langage qu'il faut. Il n'y a pas une mémoire. Il y a plusieurs aspects à la mémoire, plusieurs formes à la mémoire. Rien que ça, c'est déjà un abus de langage, hein, quand je dis la mémoire. Mais ces mécanismes-là, ils se mettent en place et ils sont très complexes. Alors, on pourra en parler un peu, mais ils sont très complexes. Et il y a plein de fonctions qui interviennent dans l'activité, ce qu'on appelle l'activité mnésique, quoi.
Excusez-moi, l'oubli, c'est quelque chose qui est définitif ou bien on peut oublier et puis arriver à ressortir ultérieurement en fonction des circonstances ?
Ça dépend. Il y a de l'oubli définitif, il y a des choses que vous avez perçues, etc. Vous les récupérerez probablement jamais et puis qui sont effacées. Il peut y avoir de l'oubli lié à des accidents vasculaires, il peut y avoir plein de choses comme ça. Après, il ne faut pas croire qu'on a de l'information organisée. Tout le monde est organisée, comment je veux le dire ça ? On ne récupère pas une information toute prête. On retravaille, tout le monde, elle est reconstruite, elle est transformée, etc. Donc l'oubli, ça peut être aussi l'impossibilité de récupérer une information, de la remettre dans le bon contexte, c'est ça aussi l'oubli. En fait, il y a des choses qu'on peut... Alors, je fais rigoler les philosophes, c'est des vieux trucs. Il y a des choses qu'on peut savoir que l'on sait, mais ne pas récupérer. Il y a des choses qu'on peut ne pas savoir que l'on sait, et puis pourtant on les sait, etc. Donc après, il y a plein de mécanismes, c'est vraiment des choses qui sont compliquées. Et pareil, parler de l'oubli, comme parler de la mémoire, c'est presque un abus de langage. Mais on le fait nous-mêmes. Hein. Moi, je parle de la mémoire, mais en fait, il n'y a pas une mémoire. Et il y a plusieurs formes d'oubli aussi. Il y a plusieurs. Selon à quoi on fait référence, ça ne va pas être les mêmes mécanismes qui sont au jeu.
Personne ne va terminer. Une autre question ? Vous avez un micro ?
Qu'est-ce qu'on sait du réapprentissage par rapport aux zones de cerveau ? Est-ce qu'on est capable de tout réapprendre ou est-ce que quand on a une zone de cerveau lésée, on ne peut pas recommencer et on ne peut pas réapprendre.
Alors, on revient un petit peu sur le sujet de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la possibilité pour le cerveau de se réorganiser pour retrouver une fonction après une lésion cérébrale, comme un accident vasculaire cérébral, par exemple. Hein. Donc, une destruction localisée du cerveau et derrière, des mécanismes qui font que la fonction va se réorganiser et essayer de pallier à un déficit. Alors, ce qu'on sait de base, c'est qu'un neurone qui meurt ne repousse pas. Hein. Il n'y a pas de remplacement des neurones. Il y a deux choses qui peuvent se passer, qui sont, un, une réorganisation des circuits qui vont retrouver la fonction, c'est-à-dire que le cerveau a le pouvoir de se réorganiser, alors d'autant mieux que la lésion survient très tôt dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lésions très étendues, très graves, notamment à la naissance, hein, et finalement des cerveaux qui se développent avec toutes les fonctions habituelles, mais réorganisées, une redistribution complète des fonctions sur le cerveau, la partie du cerveau qui est sain. cette possibilité de réorganiser les fonctions en réutilisant d'autres circuits hein, pour autre chose que ce à quoi ils étaient destinés au départ, avec le temps, elle diminue, mais elle persiste. Hein. Alors, il y a d'autres choses qu'on connaît très peu, mais dont on parle beaucoup, c'est toute l'histoire des cellules souches. C'est-à-dire que jusqu'à il y a... Moi, enfin, mes études sont déjà un peu lointaines, mais c'est pas tant que ça. On disait que le cerveau, les cellules qui meurent ne sont pas remplacées. On sait maintenant qu'il y a dans le cerveau, dans au moins deux régions qui sont bien identifiées, des cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qui ne sont pas encore différenciées, qui sont dans un état, on dit pluripotent, c'est-à-dire qu'elles peuvent, sous l'influence de signaux qui viennent de l'environnement, décider si elles vont faire l'un des types cellulaires du cerveau. Alors essentiellement, pour faire simple, les neurones et les cellules gliales, donc des cellules qui sont là à la fois pour structurer, pour apporter l'énergie aux neurones, pour l'encadrer, puis aussi qui participent aussi aux signaux neuronaux, donc qui ont vraiment un rôle important. Et peut-être que cette potentialité-là dans le cerveau, qui est un petit peu cachée, qui est tout le temps présente, peut servir éventuellement à permettre aux gens de récupérer après une lésion. Là, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est une grande voie de recherche, parce qu'une fois qu'on a découvert ça, on s'est dit, on a un trésor caché dans le cerveau. Peut-être qu'on peut remplacer les neurones qui meurent, même liés au vieillissement. Hein. Ça ouvre plein de potentialités. Pour l'instant, c'est juste à l'état d'hypothèse et d'expérience encore très fondamentale.
Moi, je pourrais peut-être dire un petit mot par rapport au langage. Après un AVC, certains patients souffrent donc d'aphasie, un trouble donc du langage suite à une lésion cérébrale, donc en général de l'hémisphère gauche. Hein, le langage est à gauche. Et donc, il y a tout un processus de récupération spontanée. Hein, le cerveau récupère spontanément certaines capacités. Et en tant qu'orthophoniste, nous sommes là quand même pour booster cette récupération et pour essayer, dès les premiers jours post-AVC, de restructurer tout ça, refaire des nouveaux réseaux, en tout cas neuronaux, pour compenser. Et c'est vraiment s'appuyer sur des capacités préservées du patient pour après aller sur des choses un peu plus complexes et peut-être un peu plus perdues. Mais c'est très important donc de faire un bilan très précis des capacités restantes. Hein, je parle de la compréhension orale, écrite, je parle de l'expression orale, écrite, et de se dire, je ne sais pas, ce patient arrive encore à lire à voix basse, mais il n'arrive pas à produire, à s'exprimer à l'oral, et on va essayer de passer par le support écrit, etc., pour proposer une rééducation et après arriver à des choses à l'oral, par exemple, ou... mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment partir sur ce qui reste aussi, hein, sur des capacités résiduelles. Et il y a plus ou moins de progrès en fonction, après, la localisation de la lésion, la taille de la lésion, des aspects aussi motivationnels, enfin, je veux dire, la motivation de chacun des patients, de son âge, de ses capacités, antérieures aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les études ont montré quand même qu'il y avait une récupération au niveau du langage qui peut aller jusqu'à 2 ans après un accident vasculaire cérébral et que c'est sur du long terme et avec une rééducation plus ou moins intense, intensive. Voilà. Après, je pense qu'au niveau du langage, la récupération est la plus évidente entre 2 mois et 6-8 mois post-AVC. Mais qu'après, les progrès peuvent quand même continuer. Et pour arriver peut-être à un plateau, ça dépend après de chacun, hein, mais vers 2-3 ans post-AVC, on peut s'attendre à moins de progrès. Après, à nous de revoir aussi les limites et de se dire qu'après, c'est peut-être plus bénéfique et que ces patients-là n'ont plus besoin d'orthophonie, en tout cas. Et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y en a un peu une politique où... Il faut faire de l'orthophonie post-AVC parce qu'on est toujours dans cet espoir de récupérer le langage antérieur et des capacités neurolinguistiques antérieures. Et je pense que il faut savoir aussi accepter ça et puis voir les limites de toute intervention et toute thérapie.
Mmh. dans ce que dit Morosine, il y a quelque chose de très important, qui est que le cerveau a des possibilités d'auto-organisation. Et que s'il peut récupérer, s'il peut bénéficier de cette plasticité dont on parle, enfin, la possibilité de s'organiser, c'est parce qu'il est engagé dans une fonction. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'orthophonie, tout seul, si le sujet n'est pas stimulé pour parler, il ne va sûrement pas aussi bien récupérer que s'il l'utilise, s'il essaie de développer des stratégies d'utilisation. Et c'est pareil pour tout, enfin, au niveau développement apprentissage, un cerveau ne va acquérir une fonction que s'il est poussé dans la fonction. C'est-à-dire, c'est vraiment le seul organe qui ne s'use pas en étant utilisé, au contraire, qui profite de l'utilisation.
Oui, moi j'aurais voulu revenir sur la question, la relation entre l'âge et l'apprentissage. Au-delà de, tout le monde sait qu'il y a un âge d'or des apprentissages, bon, tous les pédagogues savent ça, mais moi ma petite fille elle met une semaine à apprendre ce que moi je mets un mois au piano, donc c'est, d'une part c'est irritant, mais j'aimerais bien comprendre comment on l'explique ça. Est-ce que ça, vous avez parlé tout à l'heure de dégénérescence des cellules, comment on explique ça? Est-ce qu'il y a une explication?
Du moins, il n'y a pas une explication, il y a plein d'explications. Alors, il y a des explications, et elles ne sont pas contradictoires obligatoirement, et je vais en oublier, parce que j'oublie aussi, hein, donc je vais en oublier. Et puis, peut-être que mes collègues en rajouteront. Quand un enfant de 5 ans apprend, il a si je parle en termes d'organisation des connaissances, même pas cérébrale ou les synapses, etc., il a une organisation des connaissances avec énormément moins de comptes, moins de connaissances acquises antérieurement que si, alors tu apprends beaucoup plus tard. Et donc, quand tu apprends quelque chose, ça demande aussi des réorganisations. C'est-à-dire que ce que tu apprends, il s'intègre dans un réseau de connaissances, dans un ensemble de connaissances qui existe déjà. Donc, c'est un des facteurs qui pourrait expliquer parfois des facilités d'apprentissage quand on est plus ancien, parce que tout n'est pas plus difficile quand un enfant, il apprend pas tout mieux qu'un adulte. Il y a certains apprentissages qui sont beaucoup plus efficaces, hein, ce qu'on appelle en psycho l'intelligence cristallisée, jusqu'à 60 ans, on est plus efficace qu'un enfant. Donc il y a des choses qui sont, puis parfois ça rend plus difficile, ça rend beaucoup plus difficile. Et puis ça c'est la première raison. Deuxième raison, il y a ce qu'on appelle les mécanismes attentionnels. C'est-à-dire que l'enfant, ça va jouer aussi, mais où on va être le plus efficace, c'est on va dire entre 20 et 30 ans, où on va pouvoir s'engager beaucoup plus dans la tâche, on a beaucoup plus d'attention à notre disposition, moins de fatigabilité, etc. Or, les apprentissages demandent de l'attention, quels qu'ils soient, même quand ils sont implicites, même quand ils ne sont pas conscients, etc. Ils demandent de l'attention. Il y a une fatigabilité. Donc ça peut être aussi une cause de différence. Puis il y a plein d'autres raisons. Donc, du coup, il y a plein d'autres raisons. Il ne faut pas chercher une explication. Et puis il y a une évolution. Il y a les structures cérébrales, elles ont évolué au cours du temps. Par exemple, on sait que dans la mémoire, il y a un rôle important de l'hippocampe, des hippocampes. Et on sait que ça évolue au cours du temps. Il y a le rôle d'un certain système aussi qui évolue au cours du temps. Il y a le rôle des motivations. Il y a plein de facteurs qu'on va appeler psychologiques, plus neuro, tout est lié de toute façon, qui vont expliquer ça. Il n'y a pas une seule explication. Mon point de vue, il n'y a pas une explication unique à ça. Je pense pas pouvoir
ajouter sur le cerveau aussi. Le cerveau du bébé, de l'enfant, est très différent du cerveau adulte. Et en particulier, alors, de beaucoup de points de vue, hein, mais il y a deux choses qui changent énormément, qui sont la répartition de la substance grise et de la substance blanche. Substance grise, ce sont les corps cellulaires, ce sont les neurones en particulier. Hein, pas que les neurones, comme je disais, on a plus de cellules gliales dans le cerveau que de neurones. Hein. Mais disons que c'est les corps cellulaires, les neurones. Le bébé a beaucoup plus de neurones que le sujet adulte. Beaucoup plus, beaucoup plus. Et en fait, il va petit à petit faire le tri, garder ceux qui sont intéressants pour ses apprentissages, pour ses fonctions, etc. Et les autres, ils vont disparaître, définitivement. En revanche, le bébé a très peu de substance blanche. Substance blanche, c'est le câble. C'est ce qui fait la connexion. Et toute sa construction, et la substance blanche, on sait maintenant que ça dure jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire que la maturation qui se fait plutôt de l'arrière vers l'avant, les régions qui se terminent de maturer, c'est vraiment les régions préfrontales, c'est à 25 ans, au moment où toute la substance blanche a terminé de se mettre en place. Cette substance blanche, elle va se créer parce qu'elle va connecter les structures entre elles, créer des connexions, c'est-à-dire des circuits. Hein, les apprentissages vont créer ces circuits, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en utilisant tel et tel neurone, si j'apprends une poésie, mettre corbeau sur un arbre perché, mes neurones maître corbeau sur un arbre perché, c'est un circuit qui est bien identifié et qui s'est construit avec le temps, parce que je l'ai répété un certain nombre de fois, qui fait que c'est pas mettre renard sur un arbre perché, c'est pas possible, ça marche pas. Ou alors, si j'apprends ça, je vais remplacer mon ancien circuit par mettre renard sur un arbre perché. Donc, ces acquisitions de circuits, ces apprentissages, vont faire que petit à petit, des circuits sont sélectionnés, d'autres vont perdre de leur force synaptique, c'est-à-dire un contact entre un neurone et un autre, s'il n'est pas très utilisé, bah, il n'y a pas d'intérêt, il va disparaître. Alors que celui qui est tous les jours emprunté, il se renforce, hein, ça s'appelle la potentialisation à long terme, des mécanismes synaptiques hein, au niveau de l'expression des récepteurs, la transmission entre deux neurones va être renforcée, de plus en plus efficace. Donc, mettre corbeau sur un arbre perché, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Ben, je crois aussi peut-être il faut pas non plus être focalisé sur le fait qu'en vieillissant, on va avoir tendance à oublier plus, etc., parce que bon, c'est vrai que physiologiquement, il y a des choses qui changent. C'est vrai que le cerveau d'un adulte, d'autant plus âgé, n'est pas le même que celui d'un enfant. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une interaction permanente entre le cerveau et son environnement. Et qu'en fait, le cerveau va se structurer et se modeler en fonction de ses interactions avec l'environnement. Et donc, à tout âge, c'est si on stimule son cerveau et si on se force à apprendre de nouvelles choses, à faire des activités, qu'on va le plus lutter, en fait, contre ces phénomènes d'oubli, ce qu'on appelle des fois le déclin cognitif. Donc, vous voyez, ce n'est pas une fatalité non plus. Il ne faut surtout pas se dire « j'apprends moins facilement, donc je renonce ». C'est le contraire. Il faut garder une activité extrêmement vigoureuse, j'ai envie de dire, et active. Et c'est comme ça qu'on lutte contre le déclin cognitif et même contre l'Alzheimer, contre les maladies qui font peur, hein, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Mais finalement, la meilleure façon de résister, c'est d'apprendre de nouvelles choses, c'est de se forcer à se mettre en situation d'apprentissage et de stimulation.
Ouais, je veux compléter, parce que ça fait référence. J'interviens assez souvent sur la mémoire, donc sur les aspects mémoire. Le gros problème actuellement, c'est que la représentation que l'on a, c'est que le bon fonctionnement, c'est celui des 20-30 ans, pour faire court. Alors on a un système qui me dit le bon modèle cognitif, c'est la façon dont on fonctionne à 20-30 ans. Or, à tous les âges, on a des rôles sociaux différents, on change. Notre cerveau, il change, et on a nos modes de fonctionnement et nos caractéristiques fonctionnelles changent. Et il n'y a aucune raison, par exemple, les caractéristiques de la mémoire à 60 ans soient identiques aux caractéristiques de la mémoire à 20 ou 30 ans, où fonctionnellement et dans nos sociétés, on n'a pas les mêmes rôles. Et le problème, c'est qu'on a le modèle de la bonne mémoire, c'est celle que l'on a à 20-30 ans. Non, on n'a pas les mêmes caractéristiques au niveau de la mémoire à 60 ans ou à 70 ans ou à 80, ça, on les interprète comme défauts parce qu'on oublie aussi qu'on a un rôle différent. Alors je dis souvent, comme pour plaisanter, je dis souvent aux personnes quand je fais des conférences sur la mémoire, je dis une des premières choses qui se dégrade, entre guillemets, je dis bien se dégrade, entre guillemets, avec l'âge, c'est la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est-à-dire je viens à une conférence, alors là ça sera difficile de le faire, puis il ne faut pas que j'oublie en rentrant d'acheter le pain. Puis quand je rentre chez moi, j'oublie de passer à chercher le pain. Quand on a 70 ans, ce n'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que soit je vais aller voir mon voisin, c'est pour rigoler, je dis ça, et ça me fait des relations sociales, soit je retourne chercher le pain et ça me fait de l'activité physique. Donc, faut arrêter d'avoir ce modèle dominant. La bonne mémoire, c'est celle des 20-30 ans. Parce qu'on a des caractéristiques. Réellement, la mémoire, elle change quand même au cours du temps. Il y a des caractéristiques qui changent et il y a des choses qu'on fait un peu moins bien, mais il y a des choses qu'on fait mieux. Et puis, il faut aussi, si je fais rien de mes journées, etc., ben c'est vrai qu'on a des diminutions des performances. Mais l'objectif, ce n'est pas de garder la mémoire des 20-30 ans, c'est de garder les caractéristiques cognitives en général, plus que la mémoire, qui correspondent aux besoins que j'ai à un moment donné. Et ça, il faut avoir des activités, fonctionner, etc. Et il faut sortir de ce modèle de référence qui est le 20-30 ans qu'on a en psychologie, même quand on travaille sur l'intelligence, on travaille dans d'autres domaines. Mais c'était une petite parenthèse, mais voilà.
Dans vos spécialités, quelles sont les évolutions majeures que vous avez vues en ce qui concerne le développement cognitif ou le développement organique, et quelles sont les répercussions d'un point de vue sociétal ?
Ça, c'est un piège. En fait, comme on pense, c'est
l'école.
Je pense, tout moins, je vais essayer de répondre et puis je pense qu'on va me relayer parce que je veux pas donner une bonne réponse. Tout moins, il n'y a pas de bonne réponse, mais je suis pas sûr d'être de répondre vraiment à la question. Quand on veut répondre, comment ça a changé, je pense que c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Alors, je peux répondre sur le plan de la façon de poser les problèmes, je peux répondre sur le plan de la façon des outils qu'on a à nos dispositions. C'est vraiment très difficile. Par contre, il y a un impact sociétal qui est évident. Moi, quand on m'a dit, quand Jean-Louis Coutaz m'a contacté en me disant « Est-ce que tu veux venir ?», je dis « C'est pas tout à fait ma spécialité, je suis plus sur la mémoire, je suis pas sur cerveau et apprentissage. » Et du coup, j'étais un peu voir ce qui avait été fait. Ce qui avait été un peu fait dans la littérature. Et je me suis aperçu qu'en 2007, donc il y a 5 ans quand même, il y a un gros rapport de l'OCDE qui est sorti sur neurosciences et apprentissage et l'école. Et en fait, par exemple, dans la réflexion actuellement sur l'éducation, sur la façon de mettre en place les apprentissages avec les élèves, etc., on intègre ces connaissances qui paraissaient très éloignées sur le développement cérébral, la plasticité synaptique, les zones, maintenant ce qu'on appelle les zones sensibles, ce qu'on appelait avant les... ce que t'expliquais tout à l'heure, etc. Et on essaye de voir comment on les intègre dans les réflexions pédagogiques. Donc, quand on fait ces recherches, bon, ça change énormément, mais c'est les modèles, les façons de penser les choses. Et puis, on voit que les disciplines associées, qui travaillent aussi sur l'apprentissage, etc., commencent à s'emparer des travaux sur l'imagerie, sur le développement. On pense autrement le développement du cerveau. On pense autrement le développement de l'enfant. Et du coup, ça modifie progressivement les techniques d'apprentissage, avec parfois des risques énormes. C'est que parfois, on a des articles scientifiques qui sortent, où entre nous, on comprend ce qu'on veut dire, puis quand c'est vulgarisé, c'est repris, soit dans la presse, soit par des politiques, etc., complètement autrement. Alors, je peux prendre des exemples en France. La politique qui a été mise en place dans les années 80 aux États-Unis dans la prison pour les enfants, avec l'idée que les choses étaient jouées quasiment avant 6 ans, ce qui était une aberration, et puis, etc., en disant qu'il n'y a pas besoin de programme éducatif, ça coûte trop cher, on supprime les programmes éducatifs aux États-Unis, c'était dans les années 80, je crois, à peu près, politique qui a changé après, où ça a été une erreur fondamentale, et c'est une mauvaise compréhension, et parfois volontaire, parce qu'il y a d'autres orientations, sur l'utilisation. Donc, il y a quand même... Ce qui a changé, c'est qu'on s'en empare, il y a des modifications dans les... même dans la réflexion qu'on va avoir sur l'école, les apprentissages, etc. Et je pense que c'est ça qui a pas mal changé. Et puis d'après, dans les pathologies, il y a une révolution énorme. Sauf qu'en France, on a eu un peu de retard, mais on voit bien, si vous regardez maintenant tous les travaux qu'il y a eu en neurosciences, avec les impacts sur la prise en charge des autistes, sur la prise en charge des TADA, sur la prise en charge... Il y a eu énormément, sur la dyslexie, je laissais parler Sylviane, il y a eu énormément de transformations sur l'apprentissage de la lecture, comment on fait pour apprendre à lire. Donc tout ça, il y a eu des répercussions énormes. Mais j'arrête parce que...
Mais moi, je crois que c'est les techniques aussi qui ont beaucoup évolué et que ça a fait une vraie révolution et ça a fait changer complètement notre appréhension des choses. Moi, quand j'ai commencé mes études, alors c'est pas non plus tout à fait hier, mais on avait des scanners et en fait, ce qu'on voyait, assez mal d'ailleurs, je dois dire, c'était la structure cérébrale. C'est-à-dire, on voyait les circonvolutions, etc., mais on ne voyait pas le cerveau fonctionner. Aujourd'hui, on peut voir en temps réel le cerveau fonctionner. C'est une révolution considérable. On peut voir aujourd'hui l'effet de l'apprentissage, c'est-à-dire on peut faire apprendre quelque chose et voir en temps réel les modifications cérébrales que ça induit. Donc, vous voyez, ça change complètement notre appréhension des choses et notre capacité aussi à juger si ce qu'on est en train de faire, c'est pertinent ou pas. Ça marche en rééducation. Je veux dire, on peut, pour un enfant qui a des difficultés d'apprentissage de la lecture, faire un certain type d'entraînement et vérifier après, alors qu'avant, il y avait certaines régions cérébrales qui fonctionnaient de façon atypique, voire pas du tout au niveau attendu par rapport à d'autres enfants normolecteurs. Ben, on va voir, suite à cet entraînement, que cette région cérébrale se remet à s'activer normalement. Vous voyez, donc ça a complètement changé. On n'est plus à tirer des plans, j'ai envie de dire, sur la comète et à réfléchir par rapport à des modèles théoriques en se disant ça doit être comme ci ou comme ça. À l'époque, quand on examinait le comportement d'un patient, on essayait de deviner où était la lésion. Aujourd'hui, ben, on le sait, on a immédiatement la réponse. Vous voyez ? Donc ça a complètement modifié notre façon de voir les choses et c'est vrai que ça permet d'aller d'être beaucoup plus efficace, de beaucoup mieux comprendre ce qu'on fait. Et puis tout a changé l'accès au savoir. Dire aujourd'hui avec Internet, on a en temps réel les 500 articles fondamentaux sur une question donnée en un clic. Je veux dire, avant, il fallait aller à la bibliothèque, faire des demandes parce qu'il n'y en avait qu'à telle bibliothèque. Ça mettait un temps fou. Vous voyez ? Donc, on vit à 100 à l'heure. Ça, c'est un peu le problème. C'est que ça s'est beaucoup accéléré aussi. Et que, bon, ça devient très lourd hein, en même temps de suivre tout ça, etc. Mais c'est passionnant. Et on a des outils qui n'ont plus rien à voir avec ne serait-ce que ce qui pouvait se faire il y a 5 ou 10 ans. Et ça c'est incroyable. Enfin. Et je pense que dans les 5 prochaines années, il y aura encore des révolutions. Vous voyez ? Donc ça fait vraiment avancer les choses.
Merci la recherche pour ça, parce que c'est pareil. Nous, quand on est clinicien, on s'appuie sur des modèles, et il y en a de plus en plus. Et heureusement qu'il y a tout ce travail en neurosciences qui est fait, et il y a toute cette recherche qui est faite. Et je pense que c'est pareil, une orthophoniste il y a 20 ans, c'est plus les mêmes techniques, en tout cas les mêmes approches, etc. C'est, je pense, je dis ça, mais il n'y a pas du tout le jugement de valeur, mais les choses sont bien plus carrées, codifiées. On s'appuie sur des modèles pour l'enfant, des modèles de lecture, etc. Parce qu'il y a des travaux derrière qui ont démontré telle ou telle chose. Donc maintenant, on a, je pense, plus de bagages théoriques derrière. Et on peut plus orienter notre prise en charge. Pareil pour des patients aphasiques, on s'appuie sur un modèle théorique, on sait comment, en tout cas, on s'appuie sur ce que l'on sait actuellement, et c'est vrai que c'est bien plus codifié, j'ai envie de dire explicité, et il y a des modules, des schémas théoriques, et on sait très bien que quand le patient nous répond de telle façon, c'est parce qu'il y a ça qui marcherait, ça qui est un peu plus efficient ou déficient, etc. Et on peut plus proposer des exercices vraiment adaptés parce qu'on va faire attention à certains effets, des effets de longueur, on va faire attention à la longueur des mots, on ne va pas prendre n'importe quel mot dans nos exercices à travailler, un effet de fréquence. On va regarder si ce mot est très, très fréquent en français ou s'il est plus rare. En tout cas, il y a quand même bien plus de données scientifiques derrière pour nous cliniciens, et j'ai envie de dire ortho, vraiment préciser notre travail aussi et pas agir dans le flou en disant on stimule et on ne sait pas trop ce qu'on stimule. Et je pense que ça, c'est de mieux en mieux et c'est des choses de plus en plus ciblées. Je pense qu'avant, il y avait tout ce qui était empirisme, hein, l'expérience, la pragmatique. Et puis maintenant, on a quand même plus de bagages théoriques derrière. Voilà. Merci la recherche.
Alors, moi, j'ai commencé la neurologie il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Et vraiment, c'est une révolution complète. Hein. Il y a 20 ans, nous, les neurologues, on était un peu considérés comme des contemplatifs. Alors qu'on avait une mauvaise réputation auprès des autres médecins, qui disaient, bon, c'est intellectuels, ils aiment bien machin, mais ils font rien, ils regardent leurs patients, et puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a des moyens vraiment thérapeutiques très efficaces, on a plein de possibilités, et ça c'est un bonheur de pouvoir avoir enfin des choses à proposer aux patients. Alors, maintenant, pour mettre un petit peu d'eau dans mon vin, moi, je vois essentiellement deux risques un petit peu à cette explosion des neurosciences, parce que c'est un petit peu ça. D'une part, pour le clinicien, et ensuite, pour le grand public. Pour le clinicien, c'est très simple, c'est qu'on a un accès à tellement d'outils qu'on risque de tomber un petit peu dans du technique. C'est-à-dire qu'après tout, on ne va plus tellement s'intéresser à la personne, on va la passer à l'IRM, on va la passer à machin, en attaque, on regarde des images, et on ne va plus voir qui est là, ce qu'il a exactement, quelles sont ses attentes. La partie vraiment clinique, qui est une partie majeure du travail du médecin, et qui a tendance un petit peu à passer à l'arrière-plan, enfin... pour les étudiants, parce que moi j'ai connu quand même une époque où on parlait aux patients, on l'examinait de A à Z, on faisait les choses dans les règles. Les étudiants qui arrivent, tout de suite, c'est bon, on fait un scanner, on fait une IRM, on fait un EG. Non, attends, on se pose d'abord la question, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il attend. Enfin, il y a une partie clinique qu'il ne faut pas oublier. On fait de très belles images, c'est vrai, mais derrière les images, il y a des gens avec des problèmes, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie comme clinicien. Deuxième risque que je vois, c'est aussi un petit peu ce qui nous amène là ce soir, c'est la fascination qu'exerce notamment ces images du cerveau sur le grand public à travers les médias. C'est-à-dire que maintenant, c'est très facile de faire un papier dans n'importe quel canard avec une belle image de cerveau avec des taches, en disant on a découvert la région qui fait ci, la région qui fait ça, la région... Là encore aujourd'hui, il y avait un papier qui circulait, c'était les régions du cerveau qui sont en relation avec l'amour romantique. C'était l'occasion. Donc c'est une équipe... Une équipe qui a fait passer les gens dans des IRM fonctionnels, donc, et puis que montrer l'image de leur bien-aimé, Il comparait ça avec des images neutres de gens qui ne connaissaient pas, etc. Et puis regardez, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est amoureux lorsqu'il voit sa bien-aimée ou son bien-aimé par rapport à quelqu'un qui... Et bon, ils identifient des régions. Ça, c'est un travail qui date déjà un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris leur sujet quelques années plus tard. Et ils avaient 12 sujets. Il y en a 6 qui étaient encore avec leur copine ou leur copain et les 6 autres qui avaient quitté. Et ils ont dit, on va revenir aux premières images et regarder ce qui fait la différence entre les deux groupes. Est-ce qu'il y a des différences? Et effectivement, ils sont tombés sur une différence qui fait qu'ils disent, en fait, voilà, notre papier, il y a quelques années, c'était intéressant, mais maintenant, on sait ce qui fait l'amour durable, les gens qui restent ensemble. Voilà, donc c'est la queue du noyau codé qui s'active quand on aime vraiment et qu'on va rester plus de 4 ans, c'était 4 ans, plus de 4 ans avec quelqu'un. Alors, ceci dit, il y a toujours des choses à discuter. Là, ils sont partis dans un filon, ils vont pouvoir publier pendant 20 ans le même sujet. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un petit peu, des fois, ce dérapage, honnêtement. C'est-à-dire que... Et parfois, les chercheurs ne sont pas tout à fait innocents là-dedans, parce que derrière, il y a des crédits, il y a des financements, et c'est toujours intéressant de faire du buzz autour de ce qu'on fait, parce que les politiques vont dire, tiens, machin, il a fait un labo, on en a parlé dans le monde, machin, tiens, voilà. Donc c'est des choses qui voilà. C'est pour dire que... moi, je suis très content d'être dans ce domaine-là, je trouve ça fascinant, mais attention, il y a aussi, des fois, des dérapages.
Oui, moi je vais rajouter, ça me fait penser au dérapage, je pense aussi de notre profession. Alors j'ouvre peut-être une petite parenthèse, mais je pense que c'est important, en tout cas j'ai envie de le signaler. Sur notre profession, en tant qu'orthophoniste, la dyslexie, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, bien prendre au sérieux aussi. Et tant mieux si on a des professions comme la mienne, en tout cas, qui existent. Je vais bien défendre ça aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'abus et qu'il y a plein de choses qui ne relèvent pas de l'orthophoniste et du soutien scolaire. Et je pense qu'il faut vraiment aussi faire la part des choses entre tout ça. C'est quelque chose... les troubles d'apprentissage qu'on développe beaucoup, mais on pourrait se poser la question, je ne sais pas, sur les chiffres, sur la dyslexie, qu'est-ce qu'on met derrière. On entend dans les médias des chiffres différents, etc. Et nous, nos cabinets d'orthophonie, nos cabinets libéraux sont remplis avec des listes d'attente de 6 mois à 1 an. Après, à nous de faire vraiment la part des choses et de dire est-ce que c'est un trouble vraiment spécifique du langage, est-ce que ça relève de l'orthophonie et ou est-ce que c'est juste un simple retard dans les apprentissages et est-ce que ça ne relève pas du soutien scolaire. Parce que je pense qu'on parle quand même de tous ces soucis et comme une mode aussi. Et je pense que c'est à nous, mais aussi peut-être à l'éducation nationale, de refaire passer certains messages. C'est peut-être un autre débat, mais je pense que c'est, qu'on ne peut pas prendre tous les enfants qui ont des difficultés. Un bilan, c'est bien, mais après, en rééducation, c'est notre rôle aussi de dire que ça n'est pas de notre ressort et que on n'est pas là pour faire de l'éducation ou de l'apprentissage, mais bien pour des enfants qui en ont réellement besoin et qui ont vraiment des gros troubles 10. Voilà. Après, on a de plus en plus de... On parlait des évolutions, etc. Au niveau des bilans, nous, on a de plus en plus de bilans à notre disposition, des normes. On compare un enfant avec un groupe donné en fonction de son âge, en fonction de son niveau. Et on calcule des écarts types par rapport à la moyenne, etc. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect aussi clinique du clinicien qui doit aussi intervenir et qu'il n'y a pas que des chiffres derrière tout ça. Mais la parenthèse fermée par rapport à ça, c'est-à-dire la dyslexie égale gros trouble et tous les enfants sont dyslexiques et dès qu'il y a un retard en français à l'école, etc., c'est tout de suite direction orthophonie. Je pense que... Il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'excès par rapport à cette profession.
Oui, merci de ces précisions. Vous avez terminé ou d'autres questions?
Moi, j'ai une question à poser justement par rapport à la dyslexie, etc. Vous avez répondu en partie puisque ma première question, c'était ces troubles sont-ils plus fréquents aujourd'hui ou simplement mieux identifiés et repérés? Et puis la deuxième question, c'est a-t-on des pistes sur les origines de ces différents troubles quand ils sont vraiment identifiés?
Oui, alors non, il n'y a sûrement pas plus de dyslexie qu'aujourd'hui qu'hier. Par contre, je pense que oui, on les identifie mieux et heureusement. Il y a, je sais pas, moi j'ai commencé à travailler aussi il y a une vingtaine d'années ici, et à l'époque c'était presque un gros mot de dire dyslexie, et les enseignants niaient, enfin, ou ne reconnaissaient pas l'existence de ce type de trouble. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de prise de conscience, d'information, etc., pour que finalement on soit sensible, en tout cas, à ce type de difficultés, et qu'on ne laisse pas des enfants s'inquiéter, en fait, quand vraiment ils n'arrivent pas à rentrer dans l'apprentissage de la lecture. Donc c'est vrai que ce qui a changé, c'est la sensibilité et le fait que les gens soient beaucoup plus informés. Quand je dis les gens, c'est les enseignants, mais aussi les parents et évidemment tous les professionnels de santé qui sont beaucoup mieux informés sur la nature de ces difficultés et le fait qu'il faut absolument les prendre en charge très tôt. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a beaucoup de recherches depuis des années et dans le monde entier, j'ai envie de dire, dans toutes les langues un petit peu, sur pourquoi est-ce qu'on est dyslexique. Et il y a aussi beaucoup de réponses et aussi beaucoup d'interrogations. Donc bon, la réponse la plus classique qui a été donnée durant les dernières années, c'était le fait que la dyslexie, ce soit en fait une difficulté de langage qui fait que ces enfants-là ont des difficultés à identifier les sons, donc on dit les phonèmes, en fait, à l'intérieur des mots parlés. Donc quand on dit un mot, bah, ce mot est composé de différents sons et il faut être capable, en fait, d'identifier ces différents sons si on veut apprendre à lire correctement, puisqu'il va falloir apprendre à mettre en relation, en fait, la séquence écrite de lettres avec cette séquence sonore. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la théorie phonologique, donc l'idée qu'il y avait cette difficulté à traiter, à identifier les phonèmes à l'intérieur du mot, à l'oral. Et effectivement, on peut montrer assez facilement, si vous demandez à un enfant, alors bon, on l'entraîne un petit peu avant quand même pour qu'il comprenne un peu mieux, si je vous dis comme ça, ça va peut-être vous paraître un peu difficile, mais si je vous donne un mot comme placard et je vous dis enlever le premier son de ce mot, vous êtes censé enlever le son « peu » et me dire « lacard » comme réponse. Ben, un dyslexique, il a beaucoup de mal à faire ça, parce que soit il va considérer que « pleu », c'est un son, alors qu'il y en a deux, hein, théoriquement, parce que ça, c'est un groupe consonantique qui est très fréquent, donc c'est assez groupé, hein, en termes de son, donc il ne fera pas la distinction entre les deux phonèmes qui composent la séquence « pleu ». Et même quelquefois, il va complètement omettre la première syllabe et dire que si on enlève le premier son de placard, ben, ce qui reste, c'est car. Donc, vous voyez, on peut mettre en évidence, et ce n'est pas seulement chez des enfants, hein, on peut le voir chez de jeunes adultes, donc à des âges variés. Donc, cette grande difficulté, en fait, à traiter des toutes petites informations qui sont pertinentes dans notre langue pour distinguer les différents mots. Donc ça, c'est une des théories, elle est la plus ancienne. Donc c'est vrai que ça a permis de faire avancer beaucoup les choses, puisqu'aujourd'hui, on a des outils pour diagnostiquer ce type de troubles phonologiques chez les enfants. Et on a aussi beaucoup de matériel pour le rééduquer, puisque là encore, il y a eu des tas d'expériences qui ont montré qu'en faisant certains types d'entraînement, on améliorait vraiment les performances des enfants sur cette dimension. Donc être capable d'identifier les sons à l'intérieur des mots, et aussi on a amélioré leur performance en lecture. Et si on mesure les régions cérébrales impliquées, ben là aussi on va montrer qu'alors qu'avant la rééducation, certaines régions qui sont plutôt dans l'hémisphère gauche, qui sont plutôt dans des régions dont on sait qu'elles sont très impliquées dans le langage oral, donc ces régions-là étaient sous-activées chez ces enfants, et après l'entraînement, on va montrer qu'il y a une réactivation de ces régions. Donc ça, c'est une des raisons d'être dyslexique. Mais si on regarde en fait toute la population des dyslexiques, tout le monde n'a pas ce trouble-là. Et il y a certains enfants qui sont très fortement dyslexiques, qui ont vraiment des troubles énormes. Bon, je travaille au centre référent des troubles du langage à l'hôpital de Grenoble. Et quand je vous parle de dyslexie, ça peut être des enfants qui ne lisent rien, qui ne sont capables de rien orthographier. Hein, je pense par exemple à un jeune garçon de 10 ans que j'avais vu il y a 2 ans à peu près, avec un QI à 140, donc plutôt très largement au-dessus de la moyenne, qui était incapable de reconnaître son prénom écrit. Donc vous voyez, c'est quand même dramatique, un enfant qui était capable de comprendre des tas de choses, de suivre à peu près tout en sciences, en géographie, en tout ce que vous voulez, à l'oral, hein, si évidemment il ne pouvait pas lire les leçons, mais incapable de lire et d'écrire. Donc vous voyez, ça peut être des déficits majeurs de ce type-là. Et on peut trouver des enfants qui ont des déficits aussi sévères que ça et qui n'ont pas de problème langagier. Donc, contrairement à la forme donc, de dyslexie dont je vous parlais précédemment, eh bien, ils sont capables de parler tout à fait normalement. Ils ont un bon niveau de vocabulaire. Ils ne déforment pas du tout les mots quand ils répètent. Ils identifient les sons à l'intérieur des mots parlés sans difficulté. Donc, vraiment, leur souci n'est pas à ce niveau-là. Donc, en fait, mon équipe de recherche a plutôt travaillé sur cette population pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à apprendre à lire. Et, en fait, depuis une vingtaine d'années, les résultats de nos recherches semblent s'orienter vers un problème de traitement visuo-attentionnel. En fait, donc, c'est plutôt la modalité visuelle, hein, c'est plutôt le fait de traiter visuellement le mot qui est déficitaire. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que quand vous avez un mot à lire comme maison, donc maison, c'est un mot qui est constitué de six lettres à l'écrit, bien, quand vous devez le lire, il faut que votre attention visuelle se distribue sur l'ensemble des lettres du mot. Et si vous avez suffisamment de ressources attentionnelles, vous allez être capable de traiter chacune de ces lettres en même temps. Et en fait, ces enfants-là, ils ont des ressources attentionnelles, visuo-attentionnelles plus limitées, ce qui fait qu'ils ne vont traiter dans la séquence du mot que certaines lettres, mais pas du tout l'ensemble des lettres. Comme c'est un trouble attentionnel, ben là, si vous leur montrez plusieurs fois le même mot, ben en fait, ils ne traitent pas à chaque fois les mêmes lettres à l'intérieur de ce mot. Donc, en fait, alors qu'on a l'impression qu'on leur a montré deux fois, trois fois, dix fois le même mot, eux, ils ont analysé dix fois des choses différentes. Et ça vous empêche de mémoriser la forme du mot. Et à partir de là, ben, vous n'êtes pas capable de le reconnaître quand vous le lisez et vous êtes en grande difficulté pour l'apprentissage de la lecture. Et si vous n'avez pas mémorisé le mot écrit, ben, maison, il y a des tas de façons de l'écrire, M-E-Z-O-N ou d'autres. Hein. Et donc, vous allez réinventer l'orthographe à chaque fois, mais vous n'aurez pas la capacité de l'écrire comme il doit l'être dans la langue. Donc, c'est un énorme déficit qui est lié à ce type de trouble. Et même maintenant, si on prend en compte à la fois le trouble phonologique et le trouble visuo-attentionnel et qu'on regarde dans la population des enfants dyslexiques, on va en trouver qui n'ont ni l'un ni l'autre. Donc, ils ont encore autre chose. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge pour la recherche parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hypothèses pour expliquer ces autres formes de troubles. Donc, actuellement, il y a des recherches partout, hein, mais on a encore énormément d'interrogations sur l'origine, en fait, de ces troubles dyslexiques.
Oui, toutes ces données scientifiques nouvelles, vous parlez aussi de systèmes codifiés, c'est pour un résultat. Or, j'allais dire, par exemple, dans l'apprentissage de la lecture, si on lit les résultats où se place la France, bon, il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ces enquêtes, hein, mais néanmoins, on constate, nous, autour de nous, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés à lire, puisqu'il y a des statistiques sur les difficultés des enfants qui entrent en sixième. Donc, comment se fait-il que toutes ces avancées n'ont pas apporté concrètement une aide pour l'apprentissage de la lecture ?
Oui, je crois que là aussi, il faut quand même distinguer ce qui est évalué dans ce type d'évaluation. Où on va regarder beaucoup la compréhension, on va regarder beaucoup... si on est capable de retrouver une information dans un texte. Quand moi, je vous parle de troubles de la lecture, je vous parle en fait des mécanismes de base, vraiment du décodage. Vous voyez, les enfants qui ne sont pas capables vraiment de traiter un mot, même isolé. Donc, on n'est pas du tout dans... Évidemment qu'ils n'arrivent pas non plus quand c'est un texte, mais on n'est pas à ce niveau de complexité. Et finalement, bon, il y a quelques sous-tests dans les évaluations nationales où on évalue quand même le traitement des mots isolés, la compréhension, beaucoup la compréhension d'ailleurs. La plupart en fait de ces épreuves-là ne portent pas sur vraiment les mécanismes de base de la lecture et de l'orthographe. On est sur des dimensions déjà beaucoup plus importantes. Par quoi commence le deuxième paragraphe d'un texte. Il faut que vous sachiez ce que c'est un paragraphe. Si vous ne savez pas ce que c'est un paragraphe, vous ne trouverez jamais la réponse. Vous voyez ? Mais on n'est pas sur des dimensions où vraiment on s'interroge sur est-ce qu'il est capable de décoder une séquence de trois lettres. Donc, c'est un petit peu différent, je pense. Alors, c'est vrai, après, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, quand même, qui ont des difficultés. Alors, des difficultés, là aussi, il faut s'entendre, qui sont, comment dire, plus faibles en lecture, qui ont moins à l'aise, hein, on va dire, avec la lecture, notamment au niveau de la lenteur, qui peut être plus importante chez eux quand ils doivent lire un texte. Mais on n'est pas dans le déficit et le trouble. Donc là encore, c'est assez différent hein, de ce que je mentionnais précédemment. Votre niveau de lecture, il est lié à des tas de choses. Il est lié à votre environnement familial, à votre motivation pour lire, au fait que vous lisiez, on l'a dit, hein, l'apprentissage. Il y a 20 ans, on n'essayait pas qu'il y ait 85% d'une classe d'âge qui passe le bac ou qui fasse des études supérieures. Il y avait une sélection, je pense qu'il y avait une sélection différente et beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Oh si, je vous promets. On a beaucoup plus de...
Oh madame.
Mais on a beaucoup plus d'immigration, on a beaucoup plus de... Non, je pense qu'il y a des vraies différences. Après, je suis d'accord aussi qu'il y a des différences dans l'enseignement. Peut-être qu'on passait beaucoup plus d'heures sur les apprentissages fondamentaux en primaire qu'aujourd'hui. Ça, je ne vous cache pas que ça peut intervenir, c'est évident aussi.
Ouais, derrière, c'est l'organisation. On dépasse le cadre simplement de la recherche ou des problèmes de lecture. C'est l'organisation des apprentissages qu'un enfant doit apprendre à l'école. Quels sont les fondamentaux et quel est le superficiel qu'on fait maintenant. Il faut regarder les programmes scolaires, il faut analyser ça pour essayer de comprendre éventuellement l'évolution puis vérifier qu'elle existe réellement. Parce que c'est vrai que parfois, on a des représentations fausses sur les chiffres parfois parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Mais c'est vrai que le rapport PISE ou autre montre qu'il y a quand même des écarts importants, qu'il y a plus de différences entre les catégories socioprofessionnelles qu'avant. Il y a tout un ensemble de choses de ce type-là. Après, il faut essayer d'analyser la cause. Elle n'est pas toujours dans l'enfant. Elle peut être aussi dans notre système d'organisation des apprentissages sur lequel il faut réfléchir. Et là, c'est le domaine des gens qui travaillent en sciences de l'éducation. Là, on sort de mes domaines de compétences. Mais c'est vraiment... c'est ça qui est important. Et là, moi, je suis pas assez... Après, j'aurai un point de vue au même titre que vous dans ce domaine-là. C'est-à-dire que j'ai pas de spécificité. C'est pas ma spécialité, quoi.
Oui, je vais en profiter parce que j'ai le micro, en fait. Juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que ça vient du cerveau quand quelqu'un arrive à être structuré dans le temps par rapport à ce qu'il voit à faire et à faire les choses les unes après les autres, et quelqu'un pour qui tout arrive dans le cerveau en même temps et qui est bloqué ?
Moi, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire, mais ce n'est pas une réponse, donc ce n'est pas bonne réponse. C'est que, de toute façon, ça se passe toujours là. Hein. C'est toujours dans le cerveau. Qu'on soit bloqué, pas bloqué, c'est toujours dans le cerveau. C'est-à-dire que ce qu'on dit souvent aux étudiants, il n'y a pas quelque chose au-dessus du cerveau qui se balade et qui sera en relation avec le cerveau. Après, il y a des... Tout moins, j'ai pas bien compris la question sur bloquer les gens. Ça serait l'idée qu'il y aurait des gens qui seraient plus organisés, plus structurés, plus planifiés et d'autres moins. Alors ça, on sait qu'il y a au niveau du cerveau, sur certaines parties du cerveau, essentiellement l'avant, ce qu'on appelle le frontal, on a un certain nombre de fonctions qui se développent avec l'âge et qui, on le voit, qui vont avoir des conséquences dans la façon dont on va contrôler l'action, la planifier, être organisé. Mais ce développement, ce n'est pas un développement autonome, il se fait aussi en interaction avec l'extérieur. Donc c'est avec les apprentissages que l'on va avoir, les contraintes, les renforcements positifs, négatifs que l'on va avoir, les situations qu'on va rencontrer. Alors, il y aura peut-être des caractéristiques individuelles initiales qui, dans certains environnements, vont avoir pour conséquence, du point de vue comportemental, d'avoir des gens structurés, bien planifiés. Et ça va avoir des conséquences cérébrales. On pourra noter une organisation cérébrale particulière. Puis d'autres personnes, parfois avec les mêmes compétences au départ ou les mêmes caractéristiques, mais en interaction avec un autre environnement, vont se développer autrement et avoir... Ce qu'on est, c'est le produit d'un développement qui est en interaction entre des caractéristiques neurologiques, physiologiques, etc., et l'environnement. Donc c'est cette interaction-là qui définit ce que l'on est. Donc on va pas avoir une... Moi, c'est très difficile de répondre à votre question. Je pense que j'ai un peu détourné, mais on peut pas répondre. Il me semble qu'on ne peut pas répondre comme ça à votre question.
Oui, juste pour continuer un petit peu sur la lancée de mon voisin, je pense que vous faites
sans doute allusion un petit peu à tout ce qui est mécanisme attentionnel. Non, ce que je comprends, que on est débordé par le nombre d'informations, c'est-à-dire que les ressources attentionnelles sont mobilisables dans une certaine limite. On ne peut pas être attentif à tout à la fois, donc on est obligé de faire une sélection un petit peu dans ce à quoi on va être attentif. On peut éventuellement essayer de diviser son attention pour être attentif à deux choses à la fois, c'est difficile. Au-delà, ça commence à être un petit peu risqué, c'est-à-dire qu'on risque de perdre de l'information. Et si on a tout d'un coup accès à beaucoup d'informations à la fois, l'attention est dépassée, on n'arrive plus à traiter les informations et avoir une activité cohérente par rapport à ces informations. Dans l'attention, il y a en gros deux mouvements. Il y a un mouvement qu'on appelle bottom-up, qui est quelque chose se passe et ça va capter mon attention. Donc je ressens quelque chose, ou je vois quelque chose, ou j'entends quelque chose. Donc c'est une information qui arrive sur moi. Et puis il y a le top-down, c'est-à-dire là c'est le contraire, c'est moi qui contrôle et qui vais sélectionner ce que je veux dans l'environnement. Donc je peux focaliser mon attention, me concentrer sur quelque chose de très précis. À ce moment-là, tout le bruit de fond, tout ce qu'il y a autour, si je suis bien concentré, va s'apaiser. Par exemple, dans un environnement bruyant où beaucoup de gens discutent, je peux néanmoins tenir une conversation avec la personne qui est devant moi. Donc je vais focaliser mon attention auditive sur ce que me dit mon interlocuteur, alors que l'environnement est extrêmement bruyant. Certaines personnes ne peuvent pas faire ça. Alors moi j'ai deux exemples en tête qui sont des gens qui ont subi des opérations du cerveau et qui ont ce qu'on appelle le syndrome du cocktail party, c'est-à-dire qu'ils disent très bien que dans un environnement bruyant, il y a trop d'informations qui arrivent, un peu ce que vous dites, et ils n'arrivent pas à entendre ce que dit la personne qui est pourtant devant eux, quelque chose qu'on fait un petit peu sans y penser, hein. On contrôle, on baisse le bruit de fond, on monte le bruit qui nous intéresse, et puis si éventuellement tout d'un coup je me dis tiens mais le type derrière lui, il est en train de parler de moi, là il dit des trucs, je vais aller capturer ce que dit le type qui est à l'autre bout de la pièce. Alors, j'exagère peut-être un petit peu, mais disons. Et puis, on va écouter ce que dit l'autre parce qu'il est en train de parler de moi. Et donc, on a des mécanismes comme ça qui sont purement attentionnels, de contrôle de l'attention, hein, qu'on arrive très bien à contrôler, qui peuvent être pris en défaut en pathologie. Donc, c'est peut-être ça un petit peu, cette histoire de blocage.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez être focalisé dans une discussion avec quelqu'un, il y a du bruit autour, etc. Il suffit que quelqu'un prononce, on continue à traiter l'information, tout le monde. C'est vraiment des mécanismes assez complexes. Quelqu'un prononce votre nom à côté, alors que vous êtes focalisé, vous n'entendez rien, il y a du bruit. Quelqu'un prononce et vous tournez la tête parce que ça capture votre attention. C'est des mécanismes automatiques. Et même là-dessus, il y a des différences entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Alors, selon nous, j'ai un thésard qui bosse un peu là-dessus. Et selon, il y a des différences interindividuelles, donc des différences entre nous. Il y a des gens qui vont être plus sensibles, ou c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. Il va être plus important chez certaines personnes que chez d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils sont focalisés, même l'effet cocktail party devient très faible. Tout le monde, il faut vraiment que ça soit important pour qu'ils tournent la tête quand ils entendent son nom. Puis il y en a d'autres. Bien qu'ils entendent très bien, ils sont pas, il n'y a pas de pathologie, c'est-à-dire qu'ils sont bien focalisés. Dès qu'il y a un nom, dès que leur nom est prononcé, ça systématiquement l'attention est bascule. Et ça peut être lié, et on montre que c'est lié à d'autres mécanismes, on rentre sur des trucs plus complexes. Et c'est des effets très très intéressants, tout le monde. Amusants aussi, c'est pour ça qu'on les.
Est-ce que vous souhaitiez comme réponse? Nous allons prendre encore une question, monsieur là.
Oui, moi c'était pour revenir sur l'apprentissage de la lecture et. Je trouve important de ne pas dissocier le problème du déchiffrage de le problème de la compréhension et donc un problème de vocabulaire. Or, on sait très bien que quand on lit le mot « maison », il y a une anticipation pour un certain nombre de bons lecteurs sur les premiers sons qui font qu'on sait après la suite du mot. Je vais prendre un exemple encore plus simple. Quand on a un texte sur les chats, forcément, chaton, chatière, etc., vont tout de suite avoir du sens plutôt que château et autres. Donc, on va éliminer et gagner du temps. Et donc, le problème que vous soulevez, je trouve qu'on ne peut pas le dissocier d'un stock de vocabulaire. Et là, peut-être se poser la question par rapport à la réaction de l'enseignante d'il y a 20 ans ou d'il y a 10 ans, sur la. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été dans les ministères et qui font dans l'apprentissage de la lecture, me semble-t-il, une partition qui n'est pas valable pour l'apprentissage de la lecture. Je reviens sur dissocier uniquement le déchiffrage de la compréhension. et donc après de la vitesse de lecture.
Bon, si vous voulez, la spécificité un petit peu quand on fait de la psychologie expérimentale, enfin, ou de la recherche sur la lecture, c'est d'essayer de comprendre l'ensemble des dimensions qui sont impliquées dans la lecture. Alors, quand on lit un texte, c'est vrai qu'on fait des tas de choses, en fait. On décode en partie, donc on essaye de traiter l'information qui est sous nos yeux et les lettres qui composent les mots. De temps en temps, on peut tomber d'ailleurs sur un mot qu'on ne connaît pas, le nom d'un personnage, des choses comme ça. On est quand même capable, évidemment, de le décoder, puisqu'on a appris, en fait, les liens entre les lettres ou les séquences de lettres et les sons de notre langue. Bon. Ceci dit, quand je suis dans un texte, c'est vrai que la plupart des lecteurs adultes, on va dire, la plupart des mots que je rencontre sont des mots que j'ai déjà vus, que je connais. Donc, en fait, ils vont faire appel à une mémoire qu'on a de ces mots et on va pouvoir les traiter très rapidement. Mais bien sûr qu'au fur et à mesure qu'on lit, le sens du texte est dégagé et ça nous permet aussi d'anticiper ce qui suit. Hein, si je vous dis... on est au printemps, il fait si beau en cette saison. Hein, vous êtes capable quasiment de deviner ce qui va suivre. Donc la lecture de texte, cet aspect compréhension fait que ça va extrêmement aider au décodage et au déchiffrage des mots, en fait, ou à la reconnaissance des mots, puisque le sens du texte va nous permettre d'anticiper ce qui suit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on travaille sur la lecture, on évite de travailler sur des textes. Quand on s'interroge sur est-ce qu'un enfant sait lire, on va lui proposer des mots isolés, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il cède du texte pour nous faire croire qu'il sait lire, en fait, parce que le peu qu'il est arrivé à décoder va l'aider progressivement à décoder la suite. Vous voyez, donc on va travailler sur le mot isolé. Donc l'idée, en fait, sur laquelle on travaille, c'est que ce qui est vraiment spécifique à l'activité de lecture, c'est ça, c'est être capable de décoder, de reconnaître un mot écrit. L'activité de compréhension que vous avez quand vous lisez, en fait, c'est la même que celle que vous avez actuellement hein, quand vous nous écoutez parler. C'est-à-dire les mécanismes qui servent à comprendre sont exactement les mêmes à l'écrit et à l'oral. Donc, si un enfant a un problème de compréhension, il va avoir du mal à comprendre quelque chose que je vais lui dire oralement ou une histoire que je vais lui raconter. Et évidemment, il aura aussi des difficultés quand il lit le même texte. Mais un enfant qui a des problèmes de ce que je vais appeler vraiment des problèmes spécifiques à la lecture et de traitement du mot écrit, cet enfant-là, à l'oral, il comprend très bien ce que je lui dis. Quand je lui raconte une histoire, il n'a pas de problème pour répondre à mes questions. Mais quand je lui propose le texte par écrit, là, il a du mal à comprendre parce que, en fait, il n'arrive pas à reconnaître les mots écrits et à décoder le texte correctement. Vous voyez, c'est pour ça que je fais une différence entre les activités vraiment de décodage et de reconnaissance de formes écrites, c'est-à-dire que ce soit des vrais mots ou des mots nouveaux comme des noms de villes, des noms d'animaux ou autres, et l'activité de compréhension elle-même. Mais évidemment que dans l'idéal, pour un lecteur expert, les deux sont toujours intimement liés. Et en même temps, ils sont en interaction permanente. Comment vous dire ? Si j'ai une bonne mémoire de l'orthographe des mots, parce que j'ai appris, je lis régulièrement, j'ai mémorisé des tas de mots de ma langue, j'aborde un texte écrit. Cette activité de reconnaissance de mots et de décodage est tellement automatisée que toutes mes ressources attentionnelles, on retombe toujours sur les ressources attentionnelles, toutes mes ressources attentionnelles sont dédiées à la compréhension. Au point quand vous lisez, si vous êtes des bons lecteurs, quand vous lisez un roman, vous êtes en train de vous faire le film dans la tête. Hein, vous êtes en train d'imaginer les personnages, ce qu'ils font, etc. À la limite, si je vous arrête et je vous dis est-ce qu'il y avait le mot canapé dans ce que tu viens de dire, vous pouvez très bien me dire oui, alors qu'il y avait le mot divan, parce que ça veut dire la même chose, et puis finalement, vous n'avez pas vraiment fait attention à cette dimension-là, parce que cette activité, elle est complètement automatisée. Maintenant, si je prends un enfant dyslexique qui est en grande difficulté pour décoder, ben lui, ses ressources attentionnelles, elles lui servent essentiellement à ça, à déchiffrer les mots, à essayer de décoder les lettres et de mettre en relation ces lettres avec des sons et à reconstruire en fait la forme sonore de ce qu'il lit en permanence. Et là, il n'y a plus de place, hein, il n'y a plus d'énergie finalement, de ressources qu'il peut dégager pour la compréhension, et ça va induire des troubles de la compréhension. Vous voyez, mais c'est deux choses qui sont assez différentes. Il ne faut pas du tout, même si toutes les deux sont combinées dans l'activité de lecture, on peut les étudier de façon totalement indépendante. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
Oui, merci.
Bon.
Voilà. Maintenant, je vous propose donc une petite interruption pendant laquelle vous pourrez aller consommer des boissons au bar qui est à côté.